Chapitre 17. Zed crut avoir entendu quelque chose. La cuillerée de potée qu'il allait engloutir s'immobilisa en plein vol. Il se pétrifia et tendit l'oreille. La forteresse lui semblait souvent vivante, comme si elle respirait. De temps en temps, il aurait même juré qu'elle poussait un petit soupir. Et depuis qu'il était enfant, il y captait des craquements dont il n'avait jamais trouvé la source. Selon lui, ces bruits devaient provenir des blocs de pierre qui réagissaient aux changements de température et de taux d'humidité. C'était d'autant plus probable que certains de ces blocs au niveau des fondations avaient la taille de petits immeubles. Un jour, alors que le sorcier avait 11 ou 12 ans, un grand bruit avait retenti dans toute la forteresse comme si on l'avait frappé avec un marteau géant. Il était sorti d'une bibliothèque où il lisait studieusement, pour voir des dizaines de gens courir en tous sens dans les couloirs en échangeant des murmures inquiets. Plus tard, son père lui avait dit qu'on avait trouvé la cause de ce tumulte. Un des blocs géants s'était fissuré, tout simplement. Cela ne menaçait en rien l'intégrité du complexe, mais on avait entendu le bruit d'un bout à l'autre de ces interminables couloirs. Bien que ces incidents fussent très rares, Zed avait sursauté plus d'une fois à cause d'un vacarme inattendu. Ensuite, il y avait les animaux. Dans certaines zones de la forteresse, des milliers de chauves-souris voletaient en liberté. Elles appréciaient tout particulièrement le sommet des tours de garde, où des myriades d'insectes venaient chercher les chiches rayons de soleil qui filtraient des meurtrières. Les rats comptaient aussi parmi les résidents de la forteresse. Leur couinement et le bruissement de leurs pattes quand ils rôdaient en bande pouvaient inquiéter n'importe qui. Les souris grignotaient tous ceux qui leur tombaient sous les dents, produisant un bruit de fond parfois angoissant. Bien entendu, il y avait aussi les chats. Descendant des souriciers et des félins domestiques, ceux qui peuplaient aujourd'hui les lieux étaient redevenus sauvages, et ils perpétraient de véritables massacres dans les rangs des rongeurs. Ils s'attaquaient aussi aux oiseaux qui nidifiaient au sommet des tours ou venaient y chasser des insectes. De temps en temps, un bruit répugnant retentissait quand une chauve-souris, un rat, une souris, un oiseau ou un chat s'aventuraient dans un endroit interdit. Les champs de force étaient conçus pour garder les gens hors des zones dangereuses ou sensibles, mais ils protégeaient aussi les artefacts précieux conservés dans la forteresse. Ces défenses s'activaient au contact de la vie, qu'elle fût humaine ou animale. C'était logique. Sinon, rien n'aurait empêché qu'un chien de compagnie vienne voler un dangereux talisman et le rapporte innocemment à son jeune maître qui risquait de se faire exploser en jouant avec. Il était aussi possible que des personnes malveillantes dressent des animaux pour qu'ils collectent du butin à leur place. Incapables de faire la différence entre les espèces, les champs de force tuaient aveuglément les intrus. Si une chauve-souris, pourtant impossible à domestiquer, s'aventurait là où il ne fallait pas, elle finissait en cendres comme n'importe qui. Dans le complexe, il existait des champs de force que Zed lui-même ne pouvait pas traverser, car pour cela il fallait contrôler les deux facettes de la magie. Certaines défenses se présentaient sous la forme de barrières qui empêchaient les intrus d'avancer, en limitant leurs mouvements ou en leur infligeant des sensations hautement désagréables. Ces protections-là visaient à interdire l'accès de certaines zones à des enfants ou à des profanes en matière de magie. Attendu leur objectif, il n'était pas nécessaire qu'elles soient capables de tuer. D'autres secteurs étaient strictement réservés à des sorciers ou des magiciennes dotées de l'autorité requise. Si un intrus tentait d'y pénétrer sans désactiver le sortilège, par exemple en touchant une plaque de métal spéciale, le champ de force le carbonisait en un clin d'œil et il se montrait tout aussi impitoyable avec les animaux. Ces défenses mortelles avertissaient leurs victimes en leur communiquant une intense chaleur ou de terribles picotements. Dans un complexe si grand, il était facile de s'égarer et il fallait prendre des précautions pour ne pas tuer des innocents. Ces alarmes fonctionnaient aussi pour les animaux, mais quand un chat poursuivait une souris, il pouvait se laisser entraîner au-delà du point de non-retour. Zed continua à tendre l'oreille et ne capta plus rien. S'il avait vraiment entendu quelque chose, il avait dû s'agir d'un grincement de la pierre, d'un cri d'animal ou des gémissements du vent qui s'engouffraient dans la forteresse par ses centaines d'ouvertures. La cuillerée de potée reprit son vol majestueux jusqu'à la bouche avide de Zed.
« Miam !» s'écria le vieux sorcier. « C'est un délice !»
Quand il avait goûté le plat un peu plus tôt, rien n'était cuit et ça l'avait beaucoup déçu. Au lieu d'accélérer les choses avec un peu de magie et de s'attirer le courroux d'Adi qui détestait qu'on se mêle de ses recettes, il s'était assis sur un banc et avait lu un peu pour passer le temps. Lire était une source inépuisable d'informations qui pouvaient se révéler utiles aux moments les plus inattendus de ce conflit. En étudiant, le vieil homme avait régulièrement surveillé l'évolution de la potée, et ce avec une patience qui l'étonnait lui-même. À présent, le plat paraissait parfait. Le jambonneau fondait sur la langue, et les légumes ajoutés par Z étaient cuits à point, ni trop craquants ni trop mous, un régal en perspective. Non sans désolation, Z avait depuis longtemps remarqué qu'Adi ne lui avait jamais fait de biscuits salés. Or, c'était délicieux avec une potée. Bon sang, il rêvait de biscuits. En attendant que la dame des ossements revienne et lui en prépare, une bonne assiette de ce plat savoureux lui calerait l'estomac. Mais ensuite, il y aurait intérêt à avoir des biscuits, sinon il râlerait comme jamais. Où était donc Adi, d'ailleurs? Puisqu'il avait passé la journée en ville, elle était certainement allée chercher des informations dans une des bibliothèques. Pour la sélection des ouvrages, elle était une précieuse assistante. Étant native de Nicobarèse, elle s'occupait prioritairement des livres rédigés dans sa langue. Mais comme il y en avait partout dans le complexe, ça ne disait pas où elle pouvait bien être. Il y avait aussi des pièces remplies d'étagères lestées d'ossements. D'autres pièces abritaient des myriades d'armoires munies de centaines de tiroirs. Des ossements, là encore. Z avait vu les squelettes de créatures dont il ignorait jusqu'à l'existence. Mais Adi, elle, était une spécialiste des os. Pendant des décennies, elle avait vécu dans une petite maison près de la frontière. Effrayée, les gens du coin l'avaient surnommée « Dame des ossements » parce qu'elle collectionnait les tibias, les clavicules, les côtes et tout ce qu'on pouvait imaginer d'autre. Sa maison était pleine d'os, dont certains tenaient à distance les monstres qui s'aventuraient à traverser la frontière. Z soupira. Os ou pas, il n'avait aucun moyen de savoir où était sa vieille amie. D'autant moins qu'il y avait dans la forteresse bien d'autres choses susceptibles d'intéresser une magicienne. Enfin, Adi avait simplement pu vouloir se dégourdir les jambes ou grimper sur les remparts pour admirer les étoiles et méditer. Bref, il était bien plus facile de l'attendre près de la potée que de se lancer à sa recherche. S'il y avait pensé, il aurait attaché une des clochettes autour du cou de la vieille fugueuse. Z s'attaqua à sa potée en sifflotant un air entraînant. Attendre l'estomac vide ne servait à rien, sauf à se mettre de mauvaise humeur. C'était sa devise depuis toujours. Mieux valait casser la croûte et sourire, pas vrai? Quand il se sentait grognon, il fallait une grande abnégation pour le supporter. Alors qu'il versait la huitième louche de potée dans son assiette, Z entendit de nouveau un bruit. Il se pétrifia. Bon sang! Il aurait juré qu'il venait d'entendre sonner une clochette. Le vieil homme n'était pas doté d'une imagination délirante et il n'avait pas tendance à être impressionnable. Pourtant, un frisson glacé courut dans tout son corps comme s'il venait d'être touché par les doigts gelés d'un fantôme. Z se leva doucement et se tourna vers la porte. Ça pouvait être un chat. S'il n'avait pas placé la cordelette assez haut, un félin avait pu faire sonner la clochette avec sa queue s'il la gardait fièrement dressée quand il passait sous un obstacle si insignifiant. Un de ces sacrés matous avait même pu s'asseoir sur son arrière-train et jouer les sonneurs avec les pattes avant. Oui, c'était possible. Il se pouvait aussi qu'un oiseau se soit perché sur la cordelette. Ces pièges sonores étaient un luxe de précaution puisqu'aucun être humain normal n'aurait pu franchir les champs de force placés avant les clochettes. Ce devait être un animal. Plus précisément, un chat ou un oiseau. C'était la seule explication. Malgré cette rassurante logique, le vieil homme avait tous les poils hérissés. Il détestait la façon dont cette clochette avait sonné. Quelque chose lui disait qu'un animal ne pouvait pas avoir produit un tintement pareil. Pourtant, une clochette avait sonné, ce n'était pas son imagination. Tentant de se souvenir du tintement, il s'efforça de se représenter le type de personne qui pouvait l'avoir provoqué. Posant son assiette sur le manteau de la cheminée, Z avança vers la porte en traçant mentalement la carte des pièges sonores qu'il avait placés. Il devait être sûr. Il sortit de la pièce et avança dans le couloir, le dos collé au mur. Quand il atteignit la première intersection, il sonda le nouveau couloir sur sa droite, puis jeta un coup d'œil derrière lui. Il n'y avait rien nulle part. Le vieil homme continua son chemin, passant devant une série de portes fermées, puis longeant une tapisserie, la représentation d'un vignoble qu'il avait toujours trouvé d'une grande médiocrité. Trois intersections plus tard, il arriva au pied d'un grand escalier. Il le gravit, passant au-dessus du couloir qu'il venait de quitter. En revenant ainsi sur ses pas, il allait pouvoir rejoindre les couloirs où il avait placé des pièges sonores, l'astuce suprême étant bien entendu de ne pas les avoir empruntés à l'aller. En marchant, Z consulta le plan mental du dédale de couloirs, de salles et d'escaliers où il entraînait ses éventuels poursuivants. Pour y avoir passé la plus grande partie de sa vie, il connaissait comme sa poche le complexe géant. Et bien entendu, le premier sorcier avait accès à tous les coins et recoins, à part ceux qui exigeaient la maîtrise de la magie soustractive. À cause de cette limitation, il aurait pu se perdre dans certaines parties de son fief, mais pas celle où il évoluait actuellement. À moins de marcher dans son sillage, ce qui était impossible, quiconque le suivrait devrait faire tôt ou tard demi-tour ou passer dans un couloir muni d'un piège magique et d'une cordelette à clochette. S'il entendait un nouveau tintement, il saurait de quoi il retournait. Une idée le frappa soudain. Et si c'était Adi? Elle avait pu ne pas voir la cordelette noire, ou juger ses pièges stupides et décider de faire sonner une clochette pour embêter son compagnon? Non, Adi n'était pas comme ça. Elle aurait pu lui délivrer un sermon pompeux au sujet des pièges idiots qui ne servaient à rien, ça c'était tout à fait son genre. Mais elle était trop responsable pour en déclencher un, histoire de s'amuser. Cela dit, elle avait pu le faire sans le vouloir. Une autre clochette tinta. Z se tourna en direction du bruit et se pétrifia. Ça ne collait pas. Le son venait de derrière un amphithéâtre, dans un couloir où il avait effectivement posé un piège. Mais cet endroit était trop éloigné de celui où avait tinté la première clochette. Personne n'avait pu parcourir une telle distance en si peu de temps. Gravir des centaines de marches, traverser une passerelle, longer des remparts étroits en pleine nuit, trouver le bon escalier en colimaçon pour redescendre, puis traverser une enfilade de couloirs, non, c'était impossible. Sauf s'il y avait plus d'un intrus. La clochette avait d'abord émis un bref tintement. Puis, il y avait eu un son métallique, comme si elle était tombée sur le sol de pierre. Quelqu'un avait bel et bien trébuché sur la cordelette. Z changea de plan. Faisant demi-tour, il s'engagea dans un étroit couloir sur sa gauche, courut jusqu'à un escalier et gravit trois par trois les marches en chaîne polie par le temps. Sur le premier palier, il tourna à droite, se précipita vers un deuxième escalier, en pierre celui-là, et monta aussi vite que ses vieilles jambes pouvaient le porter. Glissant sur une marche, le vieil homme faillit basculer en arrière, mais il parvint à se rétablir, tomba sur un genou, se fit affreusement mal au tibia et ravala le chapelet de jurons qui lui montait aux lèvres. Très sobre, il s'autorisa simplement une seconde pour grimacer de douleur. Et encore, il utilisa ce répit pour consulter de nouveau sa carte mentale de la forteresse. Puis, il repartit à un train d'enfer. L'escalier avalé, il descendit un couloir au mur lambrissé, s'arrêta devant une porte en chaîne ronde, l'ouvrit d'un coup d'épaule et déboula sur un chemin de ronde. Sans prendre le temps d'admirer le firmament étoilé, il avança, s'arrêta deux fois pour regarder par une meurtrière et fut très satisfait de ne voir personne. Si les intrus ne passaient pas par un des chemins extérieurs, il devinait aisément où il devait être. Sa tunique flottant au vent, Z passa de tour en tour, traversant ainsi tout le vaste secteur du complexe où avaient sonné les deux clochettes. En procédant ainsi, il espérait débouler dans le dos des visiteurs qui s'étaient pris les pieds dans les cordelettes. Puisque ces inconnus avaient avancé sur les deux flancs de l'amphithéâtre, ils devaient être entrés par la même aile du complexe. Le vieil homme voulait arriver derrière eux et les coincer avant qu'ils atteignent une zone dépourvue de protection magique où ils pourraient s'enfoncer dans un incroyable dédale de couloirs. S'il ne les rattrapait pas avant, il lui faudrait une éternité pour les dénicher. Tout en courant, le vieux sorcier tenta de comprendre comment des intrus avaient pu franchir les défenses magiques de base pour atteindre les couloirs où il avait posé ses pièges sonores. Les champs de force qui protégeaient ce secteur auraient dû être infranchissables. Mais quelqu'un avait-il pu les contourner? D'instinct, il aurait répondu non, mais quelque chose devait lui échapper. La forteresse était un tel labyrinthe. De fait, beaucoup de zones défendues par des champs de force pouvaient être contournées. quand un couloir était piégé aux deux extrémités afin de défendre toutes les salles auxquelles il donnait accès, il était en général possible de faire le tour, dans un sens ou dans l'autre, pour aller au-delà du secteur protégé. Cette configuration était délibérée. Si les salles en question contenaient des artefacts dangereux, ça ne signifiait pas que ce qui se trouvait après ou avant la zone devait être interdit à tout visiteur. De plus, il fallait bien un moyen, pour ceux qui pouvaient traverser les champs de force, d'atteindre les endroits où ceux-ci étaient disposés. Le complexe entier était en fait un labyrinthe en trois dimensions qui comptait une infinité de routes et de chemins. Pour les téméraires, ce pouvait être aussi un piège mortel. À certains endroits, les sorts d'avertissement permettaient aux promeneurs innocents de rebrousser chemin. Au-delà de ces systèmes de sécurité, les champs de force tuaient sans tirer de coups de semonce. Les intrus n'avaient aucun moyen de savoir où étaient placées ces défenses. Quand on entendait abattre des envahisseurs, on ne les prévenait pas gentiment de ses intentions. Z supposait qu'il devait être possible de contourner assez de champs de force pour atteindre les couloirs où il avait tendu les cordelettes. Mais même sous la torture, il n'aurait pas pu indiquer un tel chemin à quelqu'un. Qu'importait au fond? Qu'ils aient été malins ou chanceux, les intrus seraient bientôt coincés dans le labyrinthe. Si aucun champ de force ne les tuait, ils s'occuperaient d'eux en personne. À un moment, le vieil homme, en passant sur un chemin de ronde, sonda l'abîme vertigineux qui se terminait au pied de la montagne. Au-delà, on apercevait la forme sombre d'Aïdindril, la ville fantôme. Mais au fait, qui avait pu franchir le pont de pierre piégé pour commencer? Une sœur de l'obscurité, sans doute. Une magicienne assez futée pour désamorcer les défenses de Z en utilisant la magie soustractive. Mais les champs de force dans la forteresse étaient d'une toute autre nature. La majorité avait été créée par des sorciers de l'ancien temps qui contrôlaient les deux facettes de la magie. Une sœur de l'obscurité, si douée soit-elle, ne neutraliserait pas des défenses prévues pour repousser des sorciers qui maîtrisaient la magie dans son ensemble. Ces hommes-là avaient été à leur époque mille fois plus puissants que la plus redoutable sœur de l'obscurité actuelle. Mais où était Adi? Elle aurait déjà dû se montrer. À présent, le vieil homme regrettait de ne pas s'être lancé à sa recherche. Elle devait être informée que des intrus rôdaient dans la forteresse. Sauf si elle le savait déjà, parce qu'il l'avait capturée. Z cessa de contempler la vue et dévala au pas de course le chemin de ronde pentu. Quand il atteignit l'escalier, il s'accrocha à la rampe pour ralentir un peu, puis entama dans le noir la descente des marches en colimaçon. Son don lui apprenait qu'il n'y avait personne dans les environs. Donc, il avait probablement réussi à prendre ses ennemis à revers. Ces crétins étaient piégés. Arrivé au pied de l'escalier, Z ouvrit la porte et s'engouffra dans le couloir, où il percuta de plein fouet l'homme qui attendait les bras croisés. L'impact renversa le grand type. Z s'étala aussi et les deux hommes glissèrent sur le sol de marbre, chacun tentant de se raccrocher à quelque chose pour s'immobiliser. Le vieux sorcier n'en revenait pas. Son don lui affirmait que l'homme n'était pas là. À l'évidence, c'était une erreur. Rencontrer quelqu'un dans un couloir qui aurait dû être désert donnait le tournis au vieil homme, plus encore que sa ridicule glissade sur le marbre. Tout en avançant sur les fesses, Z invoquait une toile pour coincer le type dans les mâchoires d'un piège magique. Dans le même temps, son adversaire tentait de le ceinturer ou de lui bloquer les bras. Faisant fi du danger, Z puisa de la chaleur dans l'air ambiant et fit jaillir de ses doigts un éclair de lumière blanche censé carboniser l'intrus en un clin d'œil. L'éclair traversa sa cible et alla ricocher contre le mur de pierre du couloir. Z comprit alors que son attaque n'avait fait ni chaud ni froid à sa cible. En revanche, des étincelles jaillissaient partout dans le couloir, et désormais elles étaient dangereuses pour une seule personne, le premier sorcier lui-même. L'homme parvint à prendre le dessus sur le vieillard, l'écrasant de tout son poids. Alors qu'il se battait au corps à corps, Z exagéra sa faiblesse musculaire pour inspirer à son adversaire une confiance fallacieuse. Dès que l'occasion se présenta, il lança un coup de genou dans l'estomac du colosse, lui coupant le souffle. Criant de surprise plus que de douleur, l'homme lâcha le vieillard. Drainé de presque toute sa chaleur par la magie, l'air était aussi glacial que par une nuit d'hiver. Des nuages de buée se formaient devant la bouche des deux hommes qui frissonnaient de froid. Le grand type cria pour appeler ses camarades au secours.
Zed avait toujours cru que les individus sensés évitaient de s'en prendre physiquement à un sorcier. Ce type, lui, semblait n'avoir rien à redouter de la magie. Et même s'il ignorait avoir cette chance jusque-là, il devait avoir compris à présent. Pourtant, alors qu'il était deux fois plus grand que son adversaire, trois fois moins âgé et immunisé contre les sorts, ce grand crétin se battait comme une fillette. Médiocrement doué pour le combat, l'imbécile était cependant doté d'une détermination de fer. S'il parvenait à briser la nuque du vieil homme, son manque de compétences ne changerait rien au résultat définitif. Voyant que l'homme s'était relevé et revenait à l'assaut, Zed, enfin debout, tendit les mains, les doigts écartés, et invoqua un nouvel éclair. Trop malin pour tenter de couper en deux un type qui se jouait de la magie, il visa le plafond juste au-dessus de sa cible. Des éclats de pierre volèrent dans les airs, puis un fragment de la taille d'un poing se détacha et vint s'écraser sur l'épaule du type. Malgré le vacarme de son sortilège, Zed entendit craquer des os. Sonné par l'impact, le colosse recula et s'adossa au mur. Sachant que son adversaire ne pouvait pas être blessé directement par la magie, Zed déchaîna dans le couloir une tempête de pouvoir qui enverrait des éclats de pierre voler un peu partout. Déjà remis du choc, le type repassa à l'attaque. Il dut reculer à la hâte pour éviter une pluie de gravats en provenance du plafond, mais sa manœuvre ne suffit pas. Percuté par de gros blocs, blessé par des échardes géantes, il fut rapidement réduit en charpie et s'écroula, raide mort. Hélas, jaillissant de l'écran de fumée et de poussière, de nouveaux agresseurs bondirent sur le vieil homme. Comme pour le premier, le don de Zed lui affirmait qu'il n'y avait personne. Le sorcier lança d'autres éclairs, mais ses deux agresseurs étaient déjà sur lui, le plaquant au sol, ils lui immobilisèrent les bras. Zed lutta de toutes ses forces pour lancer un éclair qui ferait s'écrouler tout le plafond. Une énorme main qui tenait un morceau de tissu crasseux s'abattit sur le visage du vieil homme. Vite forcé de respirer, il capta une odeur puissante et entêtante qui fit sonner un signal d'alarme dans sa tête. Mais il était trop tard. Aveuglé par le tissu, Zed ne voyait plus rien, mais il sentait sa tête tourner comme une toupie. Les ténèbres l'enveloppèrent et finirent par avoir raison de sa résistance. Il perdit conscience.